Une fois de plus, un campement de personnes en exil a été détruit par les forces de l'ordre. Ces démantèlements se produisent quasi quotidiennement dans la région, à Calais, Dunkerque et ailleurs. Et cette fois-ci, on vous parle d'une destruction de campement dans le Béthunois, près de Noranfonte, le campement de Saint-Hilaire-Côte. Pour évoquer cet événement et le replacer dans son contexte, on a contacté par téléphone un membre d'une asso qui intervient sur place.
Donc je m'appelle Nan et je fais partie de l'association Terre d'Errance, qui vient en aide aux personnes migrantes de passage dans le Béthunois et plus précisément encore du côté là de Noranfonte, Saint-Hilaire-Côte depuis 2008. L'association existe depuis 2008.
Alors justement, où est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être à nouveau le contexte de ce camp de Saint-Hilaire-Côte?
C'est un campement qui se situe donc à Saint-Hilaire-Côte. Auparavant, il était à Noranfonte, puis avant encore à Saint-Hilaire-Côte. Il se situe au fait entre la route nationale 43, donc qui va de entre Béthune et Saint-Omer là, et puis la 26. Dans cette partie-là, au fait, il y a 2 kilomètres à peine entre ces deux routes, et le camp se situe là parce que il y a une aire de repos d'autoroute, une aire de service, l'aire de service de Saint-Hilaire-Côte, qui se trouve là, et par ailleurs, de l'autre côté, il y a les gares d'Isberg, de Hamont-Artois ou de Lillers, par lesquelles les personnes migrantes arrivent. Donc elles arrivent par ces gares-là et elles se posent, elles essaient de survivre tant bien que mal dans des campements d'infortune entre les deux routes que j'ai citées, donc la route nationale 43 et l'autoroute, pour essayer de rentrer dans les camions qui s'arrêtent pour la nuit à l'aire de service au fait.
Alors toujours pour avoir une idée assez précise de à quoi ça ressemble, hein, pour donner à voir aux auditeurs, aux auditrices, c'est quoi? C'est un champ, c'est un boisement, ça ressemble à quoi un peu ce campement?
Alors oui, en fait la route nationale est bordée, enfin les villes de Saint-Hilaire-Côte et surtout par exemple là de Noranfonte se trouvent le long de la route nationale. Et donc une fois qu'on est sur la route nationale et qu'on va vers l'autoroute, il y a à peine, même pas 100 mètres de maison, d'habitation. Et après ça, tout de suite, on est dans les champs. Et on est dans les champs jusqu'à l'autoroute. Et donc, les campements successifs se sont et là, le campement de Saint-Hilaire-Côte, dont il était question, dont il est question dans le communiqué de presse, se trouve dans les champs, au fait, entre deux champs, dans un croisement. Là, c'était des champs des routes de tracteurs, au fait. Il y avait un croisement de routes de tracteurs. Le campement était là, pas loin d'une réserve de récupération d'eau.
Alors, c'est un campement qui existe, alors pas forcément à cet endroit précisément, mais depuis pas mal d'années déjà.
Oui, nous, c'est les gendarmes qui nous ont appris qu'il y avait des exilés de passage là. Et donc qui essaie d'aller en Grande-Bretagne depuis la fin des années 90. Nous, notre association existe depuis 2008. Les bénévoles ont commencé à se bouger, à s'organiser au fait. Il y avait des gens qui aidaient, hein. Il y a toujours eu des gens qui ont aidé, mais d'une manière vraiment ponctuelle et très individuelle, donc très invisible aussi. Et ces gens-là ont commencé à s'organiser à partir de 2006. Et l'association est née, l'association Terre d'Errance est née, a été créée début 2008. Mais c'est des gendarmes qui nous ont effectivement appris que des gens qui passent et qui essaient de passer et de survivre et de s'installer comme ils et elles peuvent sont là depuis la fin des années 90, ce qui paraît hallucinant en fait.
Des personnes qui viennent d'une partie du monde en particulier, ou est-ce que les exilés viennent de manière générale des zones de conflit du monde?
Alors, les gens viennent effectivement des zones de conflit. C'est faux de dire que les gens viennent des pays pauvres. Les gens viennent des zones de conflit, clairement. C'est ça qu'on observe. Et alors, nous, depuis que l'association existe, on n'a pas de données sur l'avant, mais depuis que l'association existe, c'est principalement des personnes d'Afrique, de la Corne de l'Afrique, au fait, Afrique de l'Est, qui viennent. Donc, il y a des personnes d'Érythrée, d'Éthiopie et du Soudan qui sont présentes sur ce campement. Actuellement, c'est quasi uniquement des personnes érythréennes et éthiopiennes. Mais voilà, ça a bougé et ça va sans doute encore bouger. C'est pas parce que ce camp a été détruit que les personnes disparaissent, au fait.
Le silence est maître à bord pour ne pas faire de remous. Pourvu que dorme l'eau qui dort, l'embarcation tient le coup.
Avant de parler de ce qui s'est passé, du démantèlement de ce camp, comment vous, association, vous intervenez sur place, quelle aide vous apportez ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ça ?
Oui, bien sûr. Alors l'association a quatre objectifs. Le premier, c'est de venir en aide humanitaire et sociale aux personnes exilées. Humanitaire d'abord, parce qu'au fait, ces gens vivent, enfin imaginez-vous quoi, enfin c'est comme du camping sauvage, sauf que ça dure et qu'en plus on en est empêché par les autorités et qu'on n'a aucun moyen. Et donc du coup, nous, les premières fois qu'on est arrivés, les gens avaient juste des sacs poubelles coupés et tendus pour se protéger de la pluie. Et c'est à peu près tout, quoi. Donc du coup, on récupère ou on achète des tentes, des palettes, des sacs de couchage. On achète ou on récupère aussi des jerrycans qu'on va remplir d'eau chaque jour parce qu'il n'y a pas d'eau à proximité. Donc chaque jour, il y a un bénévole qui remplit des jerrycans d'eau et qui va les amener aux personnes. Selon la situation, il nous arrive de préparer des plats chauds. Mais sinon, sinon, j'allais dire dans l'idéal, au fait. Non, c'est pas dans l'idéal du tout. Mais sinon, le plus possible, on essaie de faire en sorte que les personnes puissent se préparer à manger sur place. Voilà, d'amener du bois, des palettes que je citais tout à l'heure, qui servent aussi à mettre sous les tentes pour isoler un peu. Voilà, du bois, des marmites, du gaz, des trépieds. Enfin, voilà, de quoi faire de la nourriture, de quoi faire à manger. Et puis après, on récupère aussi. On récupère des dons alimentaires qu'on leur amène. Donc ça, c'est pour l'essentiel de l'aide humanitaire. Il y a toute une question de soins aussi, parce que les gens arrivent... Alors, je parle pas du tout des traumas psychologiques. On n'est pas du tout, nous, en capacité d'accompagner, même si on peut les voir et s'en apercevoir. Mais juste les soins de santé physique, au fait... Du coup, il y a des médecins et des infirmiers, infirmières qui font partie de l'association ou alors qui sont solidaires et chez qui on peut amener les personnes quand elles sont malades. Il y a pas mal de c'est bête, hein, mais quand on essaie de rentrer en se cachant dans un camion, et ben la probabilité pour se fouler la cheville, pour se casser la jambe, quand on essaie de passer des frontières, les probabilités pour se blesser très gravement à la main avec les barbelés, ces probabilités-là sont grandes, au fait. Et donc, du coup, il y a aussi ce type de blessures qu'on doit soigner. Sans compter les blessures aussi, les problèmes de peau, au fait, dus au manque d'hygiène, parce que ben, justement, j'en viens là... On a beaucoup de difficultés ces dernières années à pouvoir proposer des douches aux personnes, organiser des douches. Du coup, il y a toute une époque où il y avait des mairies solidaires autour de nous, les mairies de Lillers, de Isberg par exemple, qui ouvraient leurs stades et dans lesquels on allait, on organisait des douches au moins une fois par semaine. C'est rien une fois par semaine, mais c'était quand même pas mal d'organisation. Et maintenant, en fait, ces mairies, pour des raisons ou d'autres, soit ne sont plus solidaires, soit n'ont plus la possibilité d'ouvrir leurs douches. Et du coup, on les accueille chez nous. Au fait, on ouvre nos douches à nous, ce qui est beaucoup moins pratique, ce qui est beaucoup plus difficile à mettre en place, quoi. Donc ça, c'est pour l'aide humanitaire. Sociale aussi, le mot est important parce qu'au fait, une fois qu'on a pu apporter un peu de soutien sur les aspects pratiques, au fait, c'est quand même encore très important de reconnaître l'autre comme un être humain, au fait, et de passer du temps avec l'autre, de, je sais pas, jouer au Uno ou des choses comme ça, bref, à des jeux vidéo, etc. Mais donc du coup, au fait, il y a tout un réseau de familles qui accueillent les personnes exilées le week-end. Parce que le week-end, au fait, les camions n'ont pas le droit de rouler. Il y a que les camions frigo là qui sont dangereux vraiment. Et comme les camions n'ont pas le droit de rouler le samedi, du coup, il y a des familles qui ouvrent leurs portes et qui accueillent les personnes pour leur permettre juste de récupérer physiquement, surtout de se nourrir, de pouvoir dormir, de reprendre des douches aussi, et puis de recharger les batteries des téléphones aussi, parce que ça c'est très important. Voilà, donc ça c'est sur l'aide humanitaire. Après, enfin c'est ça vraiment qui prend vraiment le plus de temps, d'argent et d'énergie. On essaie après le plus possible de défendre les droits des personnes exilées. Et ça c'est pas évident parce que nous-mêmes nous ne sommes pas juristes. Même s'il y a des réseaux de juristes, d'avocats, d'avocates qui nous aident, au fait c'est vraiment compliqué de faire face aux autorités, de défendre les droits humanitaires fondamentaux, au fait, de base. Hein, c'est vraiment pas facile. Mais on essaie quand même, on lâche pas l'affaire. Et puis après, on fait de la sensibilisation. On intervient gratuitement dans les classes, les écoles, les lycées, les universités pour expliquer les migrations internationales, au fait. Pour expliquer ce qui se passe dans les champs de Noirmoutier ou à Calais ou à Dunkerque aussi, pour expliquer la situation des personnes et en discuter avec les étudiants, étudiantes, les élèves. C'est très important pour nous, en fait. Le but, c'est pas du tout d'aller dire les migrants sont gentils, parce que c'est faux, en fait. Enfin, ils sont pas plus gentils ou méchants que qui que ce soit. C'est juste de dire les gens que vous appelez les migrants, ben, c'est des êtres humains, ce sont des personnes qui chacune ont leur particularité, leur histoire particulière, mais par contre qui chacune aussi ont des droits à défendre et doivent être reconnues comme des êtres humains. En fait, c'est terrible de dire ça ici et maintenant en 2025, mais au fait, on en est là. Voilà.
On en arrive à ce qui s'est passé le 8 avril dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé ce matin-là ?
Eh bien, alors nous, on n'y était pas, mais ce qui s'est passé, c'est que les autorités sont venues avec des gros moyens, vu les résultats et le résultat très rapide, parce que juste en à peine quelques heures, tout a été le campement, donc toutes les tentes ont été enlevées. Alors les personnes exilées ont pu récupérer quand même au moins leurs affaires personnelles, et ça on a dû batailler, les associations entières ont dû batailler pendant des années pour que en cas de destruction les personnes puissent récupérer leurs affaires, juste leurs sacs. Donc ça quand même ça a été fait, mais sinon toutes les autres affaires ont été embarquées et détruites. Du coup on avait là par exemple alors si les jerrycans d'eau ont été laissés. On ne sait pas trop pourquoi, comment. Est-ce que c'est de l'humanité de laisser ? Enfin, on ne sait pas. Mais sinon, toutes les tentes, toutes les palettes, tous les sacs de couchage. On avait aussi un grand congélateur, évidemment pas branché, hein, un vieux congélateur qui servait justement de réserve de nourriture. Parce que là, on est en plein champ. Et dans les champs, bah, y a des animaux, il y a des rats, il y a des rongeurs. Qui évidemment s'il y a de la nourriture sont attirés par cette nourriture, donc du coup c'était pour préserver un peu, mettre à l'abri cette nourriture, donc tout ça c'est parti, au fait tous nos efforts depuis quelques années pour juste faire en sorte que ce soit moins invivable, tout ça ça a été détruit une fois de plus. Nous, notre grand regret, c'est de pas avoir commencé à compter depuis 2006-2007, qu'on a compté le nombre de destructions. Et donc là, c'était juste une destruction de plus, quoi.
Alors comment la préfecture justifie-t-elle, en fait, cette intervention ? Est-ce qu'elle l'a justifiée ?
Alors nous, on n'a pas eu de contact avec la préfecture qui nous a complètement ignoré, qui a ignoré l'association, qui n'a pas ignoré quand même les personnes puisqu'elle les a obligées, contraintes à monter dans des bus pour aller dans des CAES, centres d'accueil et d'évaluation des situations, au CAES de ah mince, qui est du côté d'Arras, là,
Croisy.
Je ne retrouve pas. Oui, c'est ça, au CAES de Croisy, merci beaucoup. Et donc, elle les a, voilà, elle les a contraintes à monter dans les bus, à aller au CAES, donc ils sont allés là. Mais évidemment, dès 16h le soir, ben, les personnes étaient de retour à la gare de d'Isberg, au fait. C'était mais comme d'habitude. Au fait, c'est vraiment, il s'est passé ce qui s'est passé vraiment habituellement. Et pour répondre à la question, du coup, les autorités se sont appuyées sur un arrêté municipal qui date de 2019 et qui disait que le bivouac était interdit sur la commune. Et c'était un arrêté qui avait servi aux destructions précédentes, sauf qu'au fait, nous, on se pose la question de savoir comment ça se fait qu'un arrêté, enfin, un arrêté, normalement, c'est défini et délimité dans le temps et dans l'espace. Donc là, l'espace, c'est toute la commune, mais alors le temps, là, ça date de 2019, quoi. Donc, voilà, bon, visiblement, en tout cas, voilà, là-dessus, c'est là-dessus que la préfecture s'est... C'est visiblement appuyé parce que cet arrêté qui avait pris l'eau, la pluie et qui n'était plus que confetti et plastique de plus dans les champs, a été réaffiché quelques jours avant l'évacuation, avant la destruction du campement.
On est toujours par téléphone avec Nan de l'association Terre d'Errance à Noranfonte, avec qui on évoque la destruction par les forces de l'ordre du campement de personnes exilées advenu le 8 avril dernier.
Pourvu que la terre revienne, l'embarcation tient le coup.
Quelle est la situation aujourd'hui ? Donc là, vous dites que les gens sont revenus. Est-ce qu'il y a un camp qui s'est reformé ou ailleurs ? Comment ça se passe ?
Bah alors là, la situation aujourd'hui, c'est que... Bah, en fait, il y a eu... Mais alors, encore une fois, comme d'habitude, une fois de plus, quand les personnes sont revenues, eh ben, il a fallu que nous, les personnes bénévoles, volontaires, les habitants du coin, les autochtones, on s'organise pour leur venir en aide, donc aller chercher des sacs de couchage d'urgence, racheter des bâches en urgence à nouveau, voilà tout, enfin voilà, faire appel à du bois, à tout quoi, tout comme d'habitude, des tentes encore et encore, et puis les personnes ont erré pendant un ou deux jours à la recherche d'un lieu qui serait le moins pire, au fait, toujours dans cet espace-là, hein, entre la route nationale et l'autoroute. De toute façon, l'aire de service d'autoroute existe encore, les gares existent encore, donc bah, voilà. Et surtout, les guerres, ce qui pousse les gens à partir et à vouloir aller en Angleterre, tout ça, ça existe encore. Donc, voilà, il n'y a pas de miracle, hein, les gens, ils sont là, au fait. Et ils sont là, et ils sont toujours dans la même galère, et ils sont encore une fois de plus pas reconnus. C'est d'une hypocrisie incroyable de les emmener, de les forcer en plus à monter dans des bus pour aller en CAES. Les CAES ont été un peu créés pour ça, hein, suite aux destructions du ghetto à Calais notamment, quoi. Mais les CAES, officiellement, c'est fait pour les personnes qui veulent demander l'asile et d'évaluer leur situation administrative pour voir si oui ou non ça vaut le coup d'aller plus loin, de demander l'asile, etc., quoi. Normalement, c'est fait pour ça. Là, les personnes qui ont été forcées à monter dans les bus le 8 avril dernier sont des personnes qui ne veulent pas rester en France, pour les raisons qui leur sont propres et qui les raisons qu'on retrouve, c'est à la fois ben j'ai de la famille en Angleterre, j'ai des liens en Angleterre, je parle anglais, j'ai un diplôme qui peut être reconnu en Angleterre, ou c'est aussi moi, ce que j'ai vécu en France, c'est pas possible, je ne vais pas demander l'asile à un pays qui me maltraite de cette façon-là, au fait. Et ces raisons-là existent encore, et donc du coup ben voilà, la situation est encore là et on en est encore, nous, à gérer des situations qu'on ne devrait pas gérer, au fait. Ce que fait Terre d'Errance ne devrait pas le faire.
Alors, vous l'avez dit, c'est une situation qui est tristement banale, hein, des démantèlements de campements, de personnes exilées au niveau régional. Il y en a quasiment quotidiennement. Et tristement aussi, on s'habitue un petit peu à cette situation. Et ce qui vous fait aussi poser cette question dans le communiqué de presse sorti par l'association, quand est-ce que cela cessera?
Oui, c'est une question un peu désespérée, hein, qui se trouve un peu dans le communiqué de presse. C'est vraiment une question aussi d'intelligence, mais oui. Tout cet argent public dépensé en plus à ne pas prendre en soin des personnes, à ne pas prendre en compte les personnes, à ne pas respecter les droits humains fondamentaux et à détruire en plus. On n'a pas d'évaluation sur combien a coûté cette destruction là, mais franchement, ils ont dû faire venir des machines et ça a dû coûter de l'argent. Ça a coûté de l'argent, c'est sûr. On ne sait pas combien d'agents étaient mobilisés, etc. Mais pourquoi, au fait? Enfin, tout ça pour en plus ne pas respecter les droits fondamentaux des personnes. Et en plus que dans leur logique, la logique des autorités, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les personnes sont là à nouveau, au fait. Elles sont juste un peu plus dans la galère, un peu plus. Elles veulent juste un peu plus passer en Angleterre. Elles sont juste un petit peu plus dégoûtées de la France. Si c'est ça le but, c'est quoi ces accords avec l'Angleterre où on empêche les gens de passer la frontière, au fait. Enfin, franchement, c'est soit incompréhensible, soit tristement compréhensible, au fait. Enfin, c'est en tout cas c'est moche. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera peut-être quand les gens, c'est les autorités, s'apercevront à quel point ça ne sert à rien du tout, au fait, parce qu'en plus. Pendant un temps, on se disait oui, c'est pour l'invisibilité, quand les personnes commencent à être trop visibles, etc. Mais là, il y avait rien du tout de trop visible ou pas. Enfin, la situation était exactement la même. Et au contraire, ça met de la visibilité, donc parce que les personnes sont en errance là dans les chemins à essayer de trouver des endroits. Et nous, on erre aussi à essayer de les trouver, de dire où est-ce qu'ils sont, on sait qu'ils sont là, mais où est-ce qu'ils sont et comment on peut leur venir en aide. C'est vraiment... c'est triste, c'est désespérant et ça n'a pas de sens. Ou alors le sens que ça a est très, très laid, quoi.
Peut-être une dernière question, c'est si les auditeurs et les auditrices souhaitent ou peuvent vous aider, comment ils ou elles peuvent faire?
Avec plaisir, franchement, avec plaisir. On a besoin d'être nombreux et nombreuses pour se montrer en nombre et dire que Terre d'Errance, c'est pas ou que les autres associations, hein, au même titre. On n'est pas juste une poignée de folles dingues révolutionnaires, etc. Au contraire, en plus, dans Terre d'Errance, on est vraiment très très diverses et diverses. Il y a des gens de la paroisse, il y a des gens de la gauche radicale, on est vraiment en diversité. Peut-être que ce qui manque, c'est un peu de jeunesse. Les plus jeunes ont une trentaine d'années, mais bon, après c'est normal, on n'est pas dans un milieu étudiant, on n'est pas dans un endroit étudiant, du coup ça s'explique aussi peut-être par ça. Mais sinon oui, on a vraiment besoin d'être en nombre, à la fois pour se montrer, aussi pour ne pas s'épuiser. On a besoin d'argent évidemment, mais surtout de temps et d'énergie, de sourire, etc. Et du coup, venir pour 2 heures par semaine ou même 2 heures par mois ou 2 heures par jour, on prend tout, quoi. Vraiment, on a vraiment besoin de tout à tous les niveaux, autant pour amener de l'eau que de récupérer de la bouffe, l'amener là-bas, faire des allers-retours, aller chez les médecins, aller jouer au Uno, au domino, aux dames, que sais-je. Pour nous contacter, au fait, alors il y a une page Hello Asso, ça c'est pour les dons plutôt. Il y a une page donc Hello Asso Terre d'Errance. Et sinon, on a une page Facebook. Vous pouvez nous contacter par la page Facebook. Et puis enfin, sinon, par notre adresse mail. L'adresse mail, c'est contact@terrederrance.com. Et on vous attend. Avec plaisir.
Nan de l'association Terre d'Errance à Noranfonte. Jointe par téléphone, c'était vendredi dernier.